foot.rfi.fr.
Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la libre antenne durant 20 minutes. Vous commentez l'actualité de votre choix. On parlera évidemment football tout à l'heure avec la Coupe d'Afrique des Nations et notamment de cette victoire historique. Hein, on pèse les mots et je pense qu'à Brazzaville, personne ne me contredira, victoire historique des Diables du Congo il y a quelques jours face au Gabon. Première victoire des Congolais depuis 1974 en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Des commentaires. Et on va commencer avec ça, sur le très controversé projet de loi électorale en République démocratique du Congo. Vous savez que ce texte prévoit notamment un recensement de la population avant la tenue des élections présidentielles et législatives de 2016. Le problème, c'est que pour l'opposition, eh bien, ce recensement, c'est finalement une stratégie, un moyen pour retarder la tenue de l'élection présidentielle et permettre donc à Joseph Kabila de se maintenir au pouvoir, car les opposants sont convaincus que ce recensement général de la population, eh bien, cela prendra plusieurs années et donc reportera de facto l'organisation du scrutin présidentiel. Willy, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Willy.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale et MNRV pour l'année 2015.
C'est vrai qu'on peut toujours et encore se souhaiter une bonne année jusqu'au 31 janvier. Willy, vous disiez au Standard il y a quelques minutes que vous ne vouliez pas de cette nouvelle loi électorale.
Exactement, non. C'est une loi suicidaire. Parce que l'objectif de cette loi, c'est de contourner la fin du mandat en 2016 du chef de l'État, Joseph Kabila. Vous vous rendrez compte, Juan, que notre Constitution a prévu que l'élection présidentielle soit convoquée 90 jours avant la fin du mandat, c'est-à-dire au mois de septembre 2016. Mais maintenant, on nous improvise une loi au début 2015 pour conditionner cette élection-là par un recensement qui pourrait prendre plus de 2 ans. Vous comprendrez que le recensement qui conditionne l'élection va nous retarder à ce qu'en 2016, qu'on n'ait pas d'élection, comme le président Kabila l'avait dit lui-même à Lubumbashi qu'en 2016, il n'y aura rien. Et finalement, on n'aura pas d'élection. Oui. Il préfère appeler ça glissement, mais nous pensons que c'est le prolongement d'un mandat élastique pour qu'il reste au pouvoir éternellement.
Ouais. Alors, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'un recensement, eh bien, cela pourrait prendre 2, voire même 3 ans. Certains parlent de 5 ans. C'est vrai que la République démocratique du Congo est un très grand pays, grand comme 5 fois la France, 2 345 000 km². À cela s'ajoute évidemment le problème d'infrastructure, les nombreux groupes armés, les miliciens qui sévissent dans l'est du pays. Donc, voilà, globalement, vous pensez, Willy, qu'il est impossible d'organiser un recensement de la population en un an, finalement.
C'est vraiment très impossible avec les éléments que vous venez d'avancer. Ouais. Et ce recensement, nous savons, le recensement, ce n'est pas une condition d'élection. C'est une obligation de gestion de la République. Nous pensons, Kabila a été élu 2 fois. Président de la République, il n'y avait pas de recensement. Mais pourquoi quelqu'un d'autre ne peut pas être élu et faire l'élection?
Ouais, le dernier recensement date de 1984 tout de même. Christian nous rejoint toujours sur cette actualité. Il est à Kisangani. Bonjour Christian.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Et contrairement à Willy, vous dites qu'il faut un recensement avant les prochaines élections.
Absolument, Juan. Il faut un recensement et il faut également l'identification des personnes qui doivent voter. Je vous ai dit au départ, M. Juan, lorsque nous avions discuté un peu avant, que le conflit en République démocratique du Congo sur la problématique des élections remonte déjà en 2006 et en 2011. Mmh. Les opposants aujourd'hui qui refusent cette loi, qui refusent l'identification et le recensement, ils l'ont demandé il y a quelques années.
C'est vrai.
Aujourd'hui, vous savez que la contestation a eu comme base au départ en 2006 et en 2011 le fait que les opposants avaient estimé que la majorité au pouvoir surestimait le nombre de la population dans certains coins de la République. Mmh. Il est donc tout à fait normal aujourd'hui qu'on puisse identifier d'abord qui est congolais pour qu'ils puissent voter et puis qu'on connaisse le nombre de Congolais.
C'est donc à partir du recensement que l'on pourra avoir une liste électorale fiable. Vous avez raison de le rappeler. Ce recensement, c'est une vieille revendication de l'opposition. Mais pourquoi avoir lancé cette opération de recensement à 18 mois du scrutin présidentiel, alors que les autorités auraient pu lancer l'opération au lendemain de la présidentielle de 2011?
Écoutez, Juan, je suivis Willy à ce sujet-là. Je suis très content qu'il parle au conditionnel. Il a dit que ça pourrait prendre 3, 4, 5 ans. Mais tout ça, c'est au conditionnel, Monsieur Juan.
Vous pensez vraiment qu'on peut organiser un recensement général de la population dans un pays aussi grand que le vôtre en 12-13 mois?
Je vous en prie, Monsieur Juan, vous aviez suivi avec l'organisation des élections en 2006 et en 2011. En 6 mois, la Commission électorale nationale indépendante a su identifier plus ou moins 32 millions de Congolais. Et moi, je pense que si on donnait le double de moyens qu'on avait donné à la CENI, en une année, en moins de 2 ans, oui, nous pouvons faire le décompte total de toute la population.
Donc il va falloir prévoir une enveloppe budgétaire conséquente pour mener à bien en quelques mois ce recensement de la population. Christian, je vous remercie. Je remercie également Willy qui nous appelait de Kinshasa. Encore une dernière réaction sur ce sujet et on en parlera évidemment lundi. Ce sera notre débat puisque théoriquement, aujourd'hui, le Sénat devrait voter ce projet de loi. Donc on dressera un bilan ensemble lundi. Joseph, bonjour.
Bonjour.
Congolais de Paris. Et vous dites quoi par rapport à cette actualité alors?
Oui, écoutez, c'est vrai que cette loi, elle est très malvenue du fait que on a entendu trop longtemps pour qu'on puisse lancer sa révision pour arriver à faire le recensement aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus de confiance entre la population et les régimes en place, du fait qu'il y avait déjà des idées tendancieuses à vouloir réviser la Constitution. Donc on est en train de chercher où aller, et qu'est-ce qu'il faut prendre comme argument pour prolonger soit le mandat présidentiel, soit retrouver encore le président de la République briller un troisième mandat. Et c'est comme ça que nous disons que ça ne peut pas passer parce qu'il n'y a plus de confiance entre la population et le pouvoir en place. Et pour moi, je pense que le Congo, il a besoin aussi un jour de se dire, voilà, nous avons un ancien président qui avait un bilan, il a accepté de négocier avec l'opposition armée, il a fait la transition, il a organisé des mandats, et aujourd'hui, il peut partir tête haute et honorer aussi la population congolaise, préserver les acquis de la démocratie pendant ces années qu'il a assumé les responsabilités du pays. Je pense que c'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo et l'Afrique centrale et le continent africain.
D'accord, donc pas question pour vous de réviser la loi électorale en République démocratique du Congo. En tout cas, ces derniers jours, des violences ont éclaté, notamment à Kinshasa, pour protester contre ce projet de loi. Selon les autorités, 11 personnes ont été tuées depuis lundi. La FIDH, quant à elle, parle de 42 victimes et l'opposition annonce qu'elle prépare de nouvelles manifestations à travers l'ensemble du pays à partir de lundi. 33 9 693 693 70, bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes au cœur de la libre antenne. Vos réactions, vos commentaires sur l'actualité de votre choix. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour Paul-Marie.
Bonjour Juan, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
À Brazzaville, j'imagine que vous étiez nombreux dans les rues de Brazzaville, heureux après la victoire des Diables Rouges face au Gabon 1-0, victoire historique.
Ah oui, ça a été une explosion de joie, parce que ça fait 41 ans que le Congo n'avait plus gagné un seul match à la phase finale de la Coupe d'Afrique. Et donc, ça a été véritablement une explosion de joie. Aussitôt le match terminé, les Congolais ont déferlé dans les rues, en tout cas par centaines, dans tout le quartier de Brazzaville. Ça a été un moment de grande communion nationale, ouais, au regard de l'actualité.
Alors, en tout cas, aujourd'hui, le Congo a 4 points. 4 points en 2 rencontres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre pays est le premier du groupe A. allez, on peut le dire, très certainement, le Congo sera qualifié encore en quart de finale. Il doit encore s'imposer dimanche face au Burkina Faso. Quels sont, selon vous, les atouts de votre équipe nationale? Pourquoi cette révélation aujourd'hui?
Mais déjà, je pense qu'il y a, c'est une nouvelle équipe, c'est des jeunes gens qui ont de l'ambition, qui ont du rêve, et pour la plupart, ils découvrent pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations, et je pense qu'ils veulent vraiment vivre leur rêve jusqu'au bout. Et pour ça, je pense qu'il y a aussi du mental, au-delà de notre actualité qui est chargée, surtout des questions politiques.
Oui. Là,
franchement, les jeunes veulent réaliser un rêve qu'ils ont, qu'ils caressent depuis peut-être nombreuses années.
Bah oui.
Donc voilà, et face au là, tout ce qu'on demande, c'est le mental, c'est quand même l'existence d'un petit fond de jeu qu'on leur recommande.
Bon, en tout cas, on suivra évidemment sur notre antenne, l'antenne Afrique des RFI, le match de dimanche face au Burkina Faso, les étalons du Burkina qui sont eux derniers du groupe A. La CAN, c'est à suivre à la radio, mais aussi sur internet africfoot.rfi.fr avec des reportages, des analyses, tous les chiffres, ainsi, c'est important, que la chronique de notre consultant Joseph-Antoine Ben. Belle, et vous pouvez même réagir sur la page Facebook RFI Afrique Foot, une page Facebook exclusivement créée pour vous à l'occasion de cette 30e Coupe d'Afrique des Nations. Alpha, bonjour.
Oui, allô, bonjour, Juan.
Vous êtes Guinéen de Paris et vous êtes-vous très déçu de votre équipe nationale qui aurait pu gagner contre la Côte d'Ivoire?
Oui, je suis très, 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 très déçu parce que franchement, on était très bien rentré dans ce match et on a bousculé cette équipe ivoirienne qui fait partie des favoris naturels de cette CAN. Et quand on a ouvert le score, on leur a vraiment mis un coup sur la tête. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on aurait dû mieux gérer le match. Et c'est pour ça que je vise premièrement l'entraîneur qui, via sa tactique, moi j'ai trop trouvé de passivité.
Trop passif. Ce qu'il faut dire pour ceux qui n'ont pas vu le match, c'est vrai que la Guinée a vraiment créé la surprise en ouvrant le score à la 37e minute. Et ce qui peut être un peu désolant, c'est qu'ils n'ont pas su maintenir ce score de 1-0 ou peut-être inscrire un deuxième but. D'autant que les Ivoiriens, eux, jouaient étaient en infériorité numérique, puisque Gervinho a été expulsé.
Voilà, c'est comme je vous dis, Gervinho a été expulsé. À ce moment-là, Hervé Renard a opéré des changements, fait rentrer Siaka Tiené, ainsi que Sédou Doumbia, et ces changements-là ont directement apporté à l'équipe et ils nous ont bousculés. Or que M. Dissier, lui, est resté sur son banc tranquillement, sans réagir. Pas mettre de disposition parce qu'on savait que malgré qu'il y avait qu'ils étaient en infériorité numérique, qu'ils allaient pousser. On s'est retranché dans nos camps et on l'a payé cash. Parce que les joueurs ivoiriens, c'est quand même des individualités qui font leur preuve en Europe. Et ça paye cash.
Ouais, ça paye cash. En tout cas, le score final, un partout. Peut-être que Michel Dussuyer vous a entendu, le sélectionneur, entraîneur de la Guinée. On verra ça avec le second match de cette équipe. Merci Alpha, bonne journée à vous. Autre sujet qui vous a marqué cette semaine dans l'actualité, c'est la situation à Bangui, en Centrafrique, où deux humanitaires, dont une Française ainsi qu'une employée de l'ONU, ont été kidnappés par des miliciens anti-Balaka. Alors, l'employée de l'ONU a été libérée. En revanche, la Française est toujours aux mains des ravisseurs. Bonjour Alban.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors il y a du vent, vous êtes à Bangui justement, et vous dites finalement que vous n'êtes pas surpris par ces enlèvements.
Effectivement Juan, moi ça ne me surprend pas parce que vous savez la situation ici chez nous. Le groupe Ben fait le refus de mettre en activité nos forces de défense et de sécurité, à savoir les FATA. Donc je pense que la situation qui prévaut pour le moment, c'est la conséquence même de cet acte. Parce que les gens ont souligné que nos forces de défense ne respectent pas le respect des droits de l'homme. Or, on a vu qu'il y a les forces de sécurité de défense en Afghanistan, en Irak, qui ont fait des bavures, mais ils sont là, ils sont toujours en action. Donc je pense que c'est la conséquence même
de
cette attitude de rap de tête des humanitaires.
Mais je ne vois pas le rapport, parce que ces humanitaires ont été kidnappés par des miliciens anti-Balaka. Vous êtes en train de nous dire que si on donnait véritablement des moyens au FACA, donc à la force, aux forces armées centrafricaines, le pays serait mieux sécurisé?
Mais écoutez, Juan, ceux qui maîtrisent le territoire, ceux qui veulent aller dans les quartiers à l'intérieur, dénicher tous les ministres, il n'y a que les forces de défense et de sécurité, les FACA, les forces internationales qui sont là. Eux, ils sont là, peut-être au bord de la
dans les cabarets, qu'on les voit souvent, ils ne mettent même, ils font même pas leurs activités. Il y a même les résolutions des Nations Unies qui sont claires, mais ils ne font, ils n'ont pas
déjà. Le réseau se dégrade, Alban. Je suis désolé, vraiment. En tout cas, on voulait vous donner la parole sur ce sujet. Je rappelle que les ravisseurs de cette humanitaire française exigent la libération d'un de leurs chefs, Andilo, qui a justement été arrêté samedi par la mission des Nations Unies en Centrafrique. On en parlait tout à l'heure en première partie d'émission avec Christine Muratet. On répondait à quelques-unes des questions qu'on a reçues sur les émeutes de vendredi et samedi dernier au Niger. Des émeutes contre la une du dernier numéro de Charlie Hebdo. 10 morts au total. Mouniru, bonjour.
Et bonjour, bonjour les auditeurs de RFI.
Vous êtes Nigérien, vous nous avez contacté du Bénin, j'ai sous les yeux votre courrier électronique, et vous condamnez les caricatures publiées en une de Charlie Hebdo, mais en même temps vous condamnez également les violences de la semaine dernière.
Absolument, je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères condoléances à l'ensemble des Nigériens, meurtris de leur foi religieuse, je dirais d'abord. Ensuite dans leur chair. Et ce que je voulais dire aujourd'hui à l'antenne, c'est que en 5 points, je pense que c'est plus l'attitude de nos dirigeants face à l'appréciation de la situation et de la communication.
Pourquoi ?
Qui ont été à l'origine des événements auxquels on a assisté.
Pourquoi la communication d'abord, des autorités est-elle responsable de ces violences ?
D'abord, dans un premier temps, quand notre président a décidé de se rendre à Paris, geste que je loue et que je pense qu'il devait y être, il devait anticiper, et ses services de sécurité devaient anticiper qu'il y aurait des grognes au Niger. Parce que dans tout pays, tout le monde n'est pas au même niveau d'information, ne partage pas les mêmes convictions.
C'est-à-dire que les gens ont cru... Attendez, excusez-moi, Mouniru, faut que ça soit clair. Les gens, vous pensez que la population a cru que le président Issoufou se rendait à Paris aux côtés du président Hollande, plus pour soutenir le journal Charlie Hebdo que pour défendre la liberté d'expression et les valeurs de la République ?
Exactement. Je pense que c'est ce que la plupart des Nigériens ont pensé. Et personne au Niger ne leur a expliqué qu'en fait, cette marche représentait aussi une mobilisation contre la terreur et l'obscurantisme.
Ouais. D'accord. Donc il y a eu une faille dans la communication du président Issoufou. Le deuxième point, rapidement, Mouniru.
Oui, le deuxième point, c'est que quand il y a eu la confirmation que le prochain numéro de Charlie contiendrait des caricatures, je pense que le président Issoufou devait faire comme Macky Sall. Non seulement réitérer sa condamnation des attentats de Charlie, mais aussi condamner les nouvelles caricatures, parce que c'est ce que pense la majorité des musulmans de par le monde.
Macky Sall, le président sénégalais, qui a effectivement donné pour consigne d'interdire la publication dans son pays du dernier numéro de Charlie Hebdo. Mouniru, merci de nous avoir appelé, contacté de Cotonou. Il y avait Abdel Nasser de Maradi qui souhaitait également réagir aux manifestations anti-Charlie dans son pays. Fabrice à Pointe-Noire également. On aura peut-être l'occasion évidemment de revenir sur cette actualité. En tout cas, lundi, le débat sera consacré donc à la loi électorale en République démocratique du Congo. On vous attend évidemment 33 9 693 693 70. Dans 2 heures, comme tous les jours, vous allez retrouver à ce micro Emmanuel Bastide et toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Juan, merci de m'accueillir dans l'émission.
C'est normal parce qu'en plus vous avez un invité.
Puis à vous, il vous laisse de la place.
Claire Hédon, je ne vous ai pas encore donné la parole.
Toujours des protestataires.
Alors Emmanuel, invité tout à l'heure.
En direct, le ministre de l'Éducation congolais, Makermangou Famba, pour dialoguer donc en direct avec vous les voisins dans un pays, vous le savez, où la jeunesse est en ébullition. On va se poser de vraies questions. Qui a vraiment accès à l'éducation? Combien payent les familles et pour quelle qualité d'enseignement? Surtout, vous nous appelez dès maintenant pour interpeller le ministre. Il sera dans le studio de RFI à Paris. 33 1 84 22 71 71. J'ai le droit de redonner le numéro de téléphone. 33 1 84 22 71 71.
Voilà, Claire Hédon, c'est à vous maintenant.
Voilà. C'était bien la peine de râler.
On va vous retrouver.